J'arrive par celui-là qu'on résonne avec le cerveau, mais avec quand même. Avec le cerveau. Peut-être qu'on imagine avec le foie. Je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un exemple, ça n'a aucune importance, le problème qui est posé là, le sort du monde n'est pas en jeu. Mais tu vois, tout de suite, on s'aperçoit qu'on pense à la même chose. Il faut raisonner plus lentement. C'est une capacité de visionnaire et pas de raisonnement. Être capable de l'image du polygone à mille côtés. C'est une capacité de vision. Et pas du tout de concevoir. Vous y êtes? Alors peut-être qu'un jour, un homme qui utiliserait toute sa personne, je ne sais pas si ça passe par le cerveau ou dans la vision, enfin la vision de l'image, peut-être que la source est dans le foie. Je vous ai dit peut-être, je sais un peu. Et qui ont un foie tel, ma foi, qui sont capables de voir un polygone qui aurait mille côtés à la fois. Et finalement, peut-être ça dépend de la capacité avec laquelle je digère le sucre. Parce qu'effectivement, le foie ne fonctionne que si la fonction glycogénique est en ordre. Et donc, ça dépend peut-être de la qualité du sucre. Vous voyez, je vous raisonne par analogie. Pour faire comprendre, les choses ne sont pas si simples qu'on peut le croire. Est-ce que c'est clair? Bon. Et alors, simplement, cet exemple est très important. C'est-à-dire que il faut que nous découvrions que nous pensons au niveau des images, et c'est ce qui nous empêche, peut-être, de pouvoir parler. Et je parle ça au niveau du phénomène humain.
Je dis, si on n'a pas un image quelconque derrière le monde, ça n'a pas de sens, ça fait seulement un
sens. C'est faux. Si on n'a pas une image, si on n'a pas une image derrière le monde, on n'a pas d'image.
Non, âge, ça ne me dit rien.
Voilà, c'est que tu ne penses pas encore au niveau de la pensée. C'est que tu penses encore au niveau de l'image. Je vais vous dire, étant donné que le langage est simultanément véhicule des images et des idées, grâce au langage qui fonctionne tout seul, on pense quand même, mais c'est le langage qui pense. Ça pense. Il y a une cohérence du langage qui fait qu'on arrive à des conclusions au niveau des idées qu'on n'avait pas raisonné au niveau des idées. Le langage nous amène. Vous avez compris un peu ce que je veux dire? Donnez un autre exemple avant d'aller plus loin. C'est la définition du cercle. On va essayer d'arriver à cette idée-là. Que la définition du cercle, c'est pas du tout le rond. Le rond, c'est l'image du cercle. L'idée de cercle n'est pas ronde. Pas plus l'idée de chaleur, mais chaleur. Oui, c'est vrai, au niveau de l'imagination, l'idée de chaleur est chaude, mais pas au niveau de la pensée. Naron, il faut se dégager de cela. Il n'y a que lorsque un homme est capable de se dégager de son imagination que son imagination lui sert à quelque chose. Qu'il peut la maîtriser, qu'il peut l'exploiter, qu'il peut être poète vraiment. Mais raison. Eh bien, tu me reposeras la question à la fin de l'année et tu demandes comment on a fait. Ça s'apprend à penser et à le. Et alors je reprends le problème de l'idée de cercle. Cette phrase que je vous ai dit, que l'idée de chaleur n'est pas chaude, c'est d'un enseignement de Bergson. C'est très clair. Et c'est une trouvaille de génie de Bergson. Il suffit qu'il nous donne cet exemple pour qu'on comprenne de quoi il parle. Mais l'analyse qu'il nous fait vient de Platon. Et finalement, l'idée de cercle, c'est l'idée du rapport qu'il y a entre le diamètre et la circonférence. Okay. L'idée d'un rapport n'est pas ronde. C'est une notion de la réalité. Okay. Et finalement, c'est très exactement le rapport. L'idée de cercle, c'est le nombre pi. Et le nombre pi n'est pas rond. Hein. C'est le rapport entre le rayon et la circonférence. Hein. Et vous savez qu'il y a un mystère. Ceux qui sont un peu touchés un peu au mystère connaissent le mystère du nombre pi. C'est d'ailleurs le secret de la beauté. Puisque le canon de la beauté se ramène au nombre pi, c'est le rapport entre les formes circulaires et les formes droites. Bon. C'est le secret d'ailleurs de la matière vivante. La matière vivante a toujours pour forme un certain rapport entre la droite et la courbe. Et finalement, le nombre pi, là, c'est un nombre inchiffrable. Or, il existe, puisque ce rapport entre le rayon et la circonférence, je peux le percevoir. Et c'est un nombre inchiffrable, il y a ici un mystère. Or, quelle est la description de ce rapport? Eh bien, c'est l'idée d'un segment tournant autour d'un point fixe sur une surface plane. Quel? Vous avez un petit verset là, comme ça, qui dit que le jardin d'Éden est gardé par des anges à l'épée tournoyante. Une espèce de nombre pi qui bloque quelque chose. Alors, comment s'appelle le nombre pi?
314.
De plus. Donc, c'est la grammaticière de Shaddai. 314. Shaddai, c'est un autre lieu. Shin, ça fait 314. Parce quelque chose là. Bon, pour ceux qui savent un peu ces choses-là, vous comprenez qu'il y a derrière. En fait, ce qu'il y a derrière, on ne voit pas. C'est bloqué par le nombre pi. Alors, mais pour vous dire que on ne peut commencer à penser qu'au niveau des concepts. Tant qu'on est au niveau des images, on est bloqué par les images. Vous voyez, c'est clair?
Oui, mais ces concepts, ils servent à quoi? Ici, ils servent, ils vont servir à cerner plus l'image.
Si tu entends par image, la perception que nous avons de la réalité, voilà. C'est très bien. Et c'est le rapport entre la science et la technique. Le rapport entre la mathématique et la physique. C'est parce que des mathématiciens ont établi certaines équations qu'en fin de compte, les locomotives marchent. Ok ? Et regardez bien, puisqu'on est dans ce problème, c'est important de les suivre. Vous voyez que le principe de la science authentique est d'ordre monothéiste. Expliquez-moi ça. Avec ce que je viens de vous dire.
C'est pas du mal.
Non. Raisonnez à l'endroit. Tiens.
C'est que une idée, il peut y avoir plusieurs images qui sortent d'une seule idée.
Dis mieux, dis plus. Regardez.
L'image peut se transformer à partir d'une seule idée.
C'est pas ça, encore. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Mais corrige un peu parce que ce que j'ai ajouté. C'est-à-dire que la vérité mathématique est vérifiable en physique. Ce principe-là est monothéiste. Expliquez comment.
Ça tend à arriver à une image.
Avec les images, c'est quelque chose de plus important. Voilà, une équation mathématique que le mathématicien a travaillé au niveau des concepts sans images, au niveau des rapports, dans son cabinet de travail, il la transmet au physicien qui finalement le donne à un architecte, un technicien, qui finalement va construire une locomotive qui marche dans la réalité. Ce processus-là est monothéiste. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Alors, programmation est l'événement qui l'inspire.
Plus fort.
C'est pas l'histoire de la programmation et l'événement qui l'inspire.
Ça, c'est une analogie. Très bien. Mais tu as fait une analogie entre ça et ce dont tu parles. Très bien. Elle est exacte d'ailleurs. Mais tout simplement, ça veut dire qu'il n'y a pas deux ordres de logos, de structure. La structure mathématique qui serait dans un monde avec sa vérité. Et la structure de la réalité qui sont dans un monde avec sa réalité, que la vérité correspond à la réalité. Les locomotives marchent à partir d'une équation mathématique, à la limite ça veut dire Dieu est un. Le Dieu des mathématiques et le Dieu de la physique c'est le même. Il a fallu des siècles à la culture occidentale pour découvrir cela, alors la science expérimentale a pu démarrer. Tant qu'ils sont restés de mentalité dualiste, ça ne pouvait pas démarrer. L'idée que l'équation mathématique était vraie dans la réalité, ça ne démarrait pas. Et alors il a fallu arriver à ce stade-là du monisme, que, quelles que soient les apparences, l'être est un, pour que la science expérimentale puisse démarrer. Vous suivez? Voilà, je vous donne un exemple, c'est-à-dire quand on fait, à partir de cet exemple, il y en a mille, le bilan des intuitions communes de la conscience universelle. On s'aperçoit en fin de compte qu'elles sont toutes d'origine hébraïque, même celle-là, la méthode expérimentale. Ça vous paraît paradoxal. Si on vous parlait de religion, oui, c'est évident. Même là, il a fallu que le génie hébraïque travaille, repousse le dualisme, pour que la science expérimentale soit possible. Parce que sinon, vous avez tous ces siècles où la mathématique, c'était pour contempler. Oui. l'idée que la mathématique est vraie en physique, c'est une conquête de l'esprit de la culture occidentale. Et elle est d'ordre hébraïque. Même si ce n'est pas un hébreu qui l'aura dit, celui qui l'aura dit est hébraïsé. C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est clair? Alors, une minute que je finis ça, et les locomotives marchent difficilement même. J'ai quand même un petit décalage, le chen. Il y a un petit décalage, mais ça marche quand même. Voilà, donc c'est une petite. Alors, qu'est-ce que tu veux?
Il y a des concepts qui sont en de, quand même en deçà de la réalité. Est-ce que vous faites du concept de néant, par exemple, ou d'infini? Dès que je pense au concept de néant, je me mets quelque chose dedans, donc.
Attends, pas trop chaud, attends. Vers le cadre. Qu'est-ce que veut dire le concept de néant que j'ai?
C'est un pseudo concept, pas un concept.
C'est une question. Peut-être que c'est une idée factice.
Oui, par exemple, dans la mesure où je l'incarne par la pensée.
Alors on va prendre cet exemple comme exercice, très bien. Je trouve dans ma pensée l'idée de néant. Et je me pose la question avec Descartes. Est-ce que c'est une idée innée? Est-ce que c'est une idée factice? Est-ce que c'est une idée adventice? Si c'est une idée factice, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a aucune réalité qui corresponde. Hein? Bon. Et alors on va effectivement établir par raisonnement, par analogie. Est-ce qu'il n'y a pas dans la réalité un phénomène que je peux faire correspondre à mon idée de néant? Alors, je vais essayer de vous aider un peu. Est-ce qu'il n'y a pas des faits FIT de néantisation? Il n'y a pas des choses qui disparaissent. Ça se néantise. Je veux dire la mort, par exemple. Et comme vous l'avez ce que vous dites, oui, on essaie de raisonner de façon stricte. Si je perçois dans la réalité le fait qui correspond à l'idée de néant, ça veut dire que l'idée de néant n'est pas factice, elle correspond à une réalité.
C'est une personne dans la mesure où je le pense, je mets quelque chose dedans, c'est ça, c'est au niveau de la pensée pure. Je veux dire qu'il est impensable, donc si je le pense comme un concept, je le pense quand même, et donc c'est quand même, c'est toujours pas du néant.
Non, mais je pense que c'est là qu'il faut. Qui te dit que une idée négative est impensable?
Le néant est au-delà du négatif, le négatif c'est de l'être encore.
Non, tu vois, je ne sais pas de quel néant tu parles, alors définis ton idée de néant.
De mon être.
Ah, en fait. Bon, est-ce qu'il n'y a pas dans la réalité des phénomènes de mon être? C'est un élément. Prenons par exemple le fameux principe, rien ne se perd, rien ne se crée. Tiens, tu vois dans quel regard. Arrière-fond, arrière-plan, il y avait la question. Rien ne se perd, rien ne se crée. Vous êtes convaincu que ce principe est bon. Rien ne se perd, rien ne se crée. Alors, si j'admets ça comme postulat, et peut-être c'est un postulat faux, alors je peux raisonner comme ça. Mais ça veut dire que derrière ta prémisse de raisonnement, il y avait ce postulat-là. Mais si j'admets un postulat contraire, eh bien ton raisonnement tombe. Et qu'est-ce qui me donne le droit de choisir ce postulat ou ce postulat? L'expérience. Et il y a deux sortes d'expériences. Il y a l'expérience de ce qui m'est contemporain, et il y a aussi l'expérience de la mémoire. Et alors vous allez dire, oui, dans la mémoire a sa vie propre, elle transforme ses images, peut-être dans la mémoire aussi, il y a des idées factices. Quelle baronne, pour ça il faut une rachma, une science de vérification. Posez la question. Et tout ça c'est très important, tous ces petits exercices. Est-ce que vous voulez? Il y a une manière de connaître qui est au-delà, enfin autre que la manière de connaître par la raison. Je crois que c'est toi qui avais signalé le problème de l'intuition. Bon. Mais comprenez bien que la raison aussi est une des modalités de l'intuition, l'intuition rationnelle. Bon. Et une autre manière de connaître que la raison. Seulement cette autre manière de connaître que la raison, elle-même a ses règles. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais dans tous les cas, dans le postulat du discours, dans le postulat du dialogue, qu'il s'agit d'un discours rationnel, il faut s'en tenir aux règles de la raison. Et si on fait des échappées dans d'autres manières de connaître, bon, on a l'habitude de dire, c'est joli. C'est pas dire que c'est pas vrai. Mais par rapport à la raison, c'est d'une autre ordre de vérité. Et en plus, c'est joli. Et en général, d'ailleurs, ces choses profondes sont très jolies. comment est-ce que vous dites? C'est un signe par lequel on les reconnaît, d'ailleurs. Quand c'est vraiment joli. C'est-à-dire pas seulement beau, en plus c'est joli. C'est-à-dire on sent un humour de quelqu'un là-bas derrière. Hein? Comment est-ce que vous dites?
Peut-être
ça qui est chapitre 36. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, j'ai l'impression que vous avez été un peu ézéchielisé aujourd'hui. Racontez-moi, ne me volez pas ce que j'ai pas pu entendre. De quoi il s'agissait? Le cœur de pierre?
Ah non?
Le cœur de pierre?
Le sionisme qui est un peu possible.
Non, non, mais donnez-moi une des images de quoi qu'a dit Jolie.
Non, ce que vous avez dit tout d'abord, vous avez dit que les phrases étaient jolies. Vous avez ajouté, oui. Et encore plus jolie.
C'est ça.
J'allais dire.
Ah bon, par exemple. Ouais. C'est-à-dire, en plus, c'est joli.
En plus, c'est joli.
Donc, bon, vous avez encore un problème?
Oui, je voulais revenir sur ce que vous dites tout à l'heure, à revenir sur ce que vous dites. Ce que je voulais dire, c'est que dans l'analogie, je comprends pas que vous disiez raisonnement par la logique. Je veux dire qu'il y a une idée comme ça qui s'exprime de cette façon-là, et puis par intuition, je peux comprendre que pour l'autre cas, ça va se passer de la même façon. Mais je peux pas, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de lien direct.
Très bien.
Alors le raisonnement,
oui.
Le lien est propre.
C'est tout simplement que tu n'as pas exploré ce domaine suffisamment. Il y a des règles. Ce n'est pas des associations arbitraires. Il y a une espèce de cohérence, de sympathie des connaissances par analogie. Et cette connaissance-là, elle est de l'ordre de l'amour, et pas du raisonnement. C'est l'esprit qui connaît l'esprit, et pas la raison qui connaît la raison. Pour le moment, nous sommes au niveau de la raison. Est-ce que c'est clair? C'est plus des évocations de mémoire que des articulations de concept. Mais ça se met en forme logique. Ça se met en forme logique. Et c'est ça que vous trouverez dans le raisonnement par analogie. La forme rigoureuse logique du raisonnement par analogie. À condition que on sache de quoi on parle dans les termes. Et ça, c'est une affaire d'intuition du contenu du terme. Est-ce que c'est clair? Et très souvent, dans un raisonnement analogique de ce genre, qui résonne sur des analogies, il y a des règles logiques strictes. Le maître qui dirige l'étude s'aperçoit que peut-être on ne sait plus comment on parle et qu'on raisonne formellement, ça s'appelle le pitbull. Okay? Là, il s'arrête tout de suite, il dit de quoi on parlait. Mais okay? Mandouba, de quoi on parlait. Alors sinon, il dit eh bien, on parlait du cœur. Il dit non, c'est de l'estomac qu'on parlait. Tu vois, on s'arrête, on recommence. Parce que ça avait bifurqué dans les images. C'est vrai? Je vais vous donner un exemple typique d'histoire talmudique pour vous montrer par rapport à ce problème. Dans la Yeshiva, on étudie, dans les lois de la Kashrout, on étudie le système digestif des animaux pour savoir quel organe est caché, quel organe est pas caché. Et puis on étudie à quelle condition un gésier d'oiseau, ça s'appelle korkeban, en hébreu, vous avez appris ça hein?
Des
poulets,
comment on appelle ça en anglais?
Google. Non, pas Google.
Corneille.
Je demande à ma femme. Non, mais le gésier s'appelle Coquelin. Si par exemple, on a trouvé une épingle dans le gésier, est-ce que l'animal est caché ou pas? Parce que peut-être il a suffi que cette épingle a pu déclencher une infection dans les poumons. Et à ce moment-là, l'animal n'est pas caché. Et alors, pendant des heures et des heures, on discutait dans la yeshiva sur le korkeban. Imaginez de l'avoir pris yeshiva, il n'était jamais rentré dans une boucherie. Le rab a senti qu'il y avait quelque chose qui dérapait dans le raisonnement. Il est allé à la boucherie, il leur a ramené un korkeban pour qu'il voit de quoi on parle. Un Jésus. Alors, il n'a pas compris. Il est à korkeban à Kadosh. Ça va pas faire 15 mètres. Voilà le 5 courkeban dont on parlait dans la Gemara. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on sait de quoi il s'agit. Mais ça, c'est pas une affaire de raisonnement, c'est une affaire de connaissance directe. Ce que je vous appelle un peu dans nos problèmes des sciences humaines, la mémoire. C'est découvert. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on continue sur l'exemple de l'homme comme problème de définition ou qu'on rentre dans le sujet du cours? Quelle heure il est? 5h20, on a que 10 minutes. 5h20, on continue en logique. 5h20. Alors, je vais faire un effort de mémoire et on va essayer de remettre en plan les différentes définitions proposées. Okay. Alors, vous vous rappelez que la différence spécifique qui a été proposée la première, c'est la pensée. Que l'homme est vivant, pensant. Genre prochain vivant, différence spécifique, pensant. On a vu que ça ne suffit pas pour définir l'homme, parce que finalement, l'autre être vivant, les autres êtres vivants, et à condition encore qu'on ait une idée claire et distincte, que c'est ça un être vivant. Okay. Admettons, par postulat, que Hal, l'être vivant, on sait ce que c'est. Bon. Que les autres êtres vivants, finalement, eh bien, ça pense aussi, rudimentairement, mais ça pense. Donc ça ne suffit pas pour définir l'homme dans sa différence spécifique. C'est clair? Mais il y a plus. C'est que ce qui définit l'homme dans sa différence spécifique par rapport aux animaux, c'est peut-être encore autre chose que la pensée. Et pas seulement la pensée. Par conséquent, dans les deux cas, cette définition par la pensée était insuffisante. Est-ce que c'est vrai? Parce que peut-être qu'il y a dans l'homme quelque chose encore beaucoup plus important que la pensée, que même si l'animal n'avait pas la pensée, c'est pas ça la différence spécifique de l'homme par rapport à l'animal. Et que ça, c'est un détail de la pensée. Alors, on m'avait proposé autre chose. Le devenir. C'est Élie. Non, pas Élie. Élie, tu te rappelles aussi? Ça, on a un peu avancé dans cette analyse avec le rapport de Kermit. Okay. Et je voudrais proposer, pour préciser cela, le devenir, et qu'il y a une destinée. Rappelez de cela. Parce que, dans mon analyse, on reste dans le sujet, c'est comparé à l'animal. Que l'animal n'a pas de destinée, il ne se passe pas d'histoire chez les animaux. Okay. Il y a le temps, il n'y a pas la durée. Une espèce animale n'est pas donnée à une destinée. Elle est là. Okay. C'est dans le langage de la philosophie existentialiste, on dit que c'est un être là. Je ne connais pas l'allemand, ça me manque d'ailleurs, comprendre la philosophie, parce que vraiment c'est un vœu que j'ai fait de ne jamais apprendre l'allemand. Bon. Et alors, ça se dit en allemand le Dasein, pour ceux qui connaissent l'allemand. L'être là. Okay. Et alors, je dis ça par analogie de dictionnaire, mais c'est pas que je comprends. Et je suppose qu'en allemand, ça a une nuance plus précise que l'être là, qui n'est qu'une traduction en français. Être là, en deux mots. La donnée, ce qui est donné. Okay. Pourquoi j'ai parlé de ça? Ah oui. C'est-à-dire, l'animal est d'une certaine manière dans un présent éternel. D'une certaine manière. Parce qu'en réalité, c'est l'objet inerte qui est dans un présent éternel et c'est pourquoi il n'a pas de conscience. La table n'a pas de conscience. Ou, si je peux parler poétiquement, elle a une conscience tellement endormie, obscure, que c'est comme si elle n'en avait pas. Parce qu'elle n'en a pas besoin, d'une certaine manière. Elle est dans un présent éternel. Alors, elle n'a pas conscience d'être. L'animal a conscience d'être, mais dans un présent. Mais il n'y a pas de destinée dans l'histoire d'une espèce animale, au point que le concept d'histoire naturelle qu'on emploie dans la culture occidentale, pour la tradition hébraïque, est un concept faux. Histoire naturelle, c'est contradictoire. La nature n'a pas d'histoire. Elle a un vieillissement. Elle a des cycles d'évolution à évolution, mais ce n'est pas une histoire. Comment est-ce que vous dites ? Ce concept d'histoire naturelle, un concept fabriqué. Comme on dirait en hébreu, le mefoukrak. Fabriqué. C'est joli comme concept, c'est de la poésie, histoire naturelle, objets inanimés, avez-vous donc une âme ? On disait ça à Lamartine. Hein ? Oui, c'est encore Lamartine, c'est pas changé. Ben, c'est de la belle poésie, mais vous comprenez le problème. L'objet n'a pas d'histoire. L'être naturel n'a pas d'histoire. l'être de nature. Et vous voyez que des hommes qui consentiraient, non, qui consentiraient, okay, des hommes qui consentiraient à n'être que des êtres de nature sortent de l'histoire. Donc, qu'est-ce que serait un homme qui consentirait à n'être qu'un être de nature, à fonctionner comme s'il n'était qu'un être de nature? Vous vous rappelez les quatre embranchements de la croix, hein, c'est ça, crucifié. Donc, et alors, on va un peu approfondir ce concept de destinée. C'est là que vous logerez l'idée très importante de nos études du mardi et du mercredi des Toladot. Dans l'histoire humaine, il se passe quelque chose. La durée engendre des mutations d'être. D'un point de départ à un point de but. C'est l'aboutissement, parce que quand on arrive à l'aboutissement, c'est le recommencement d'autre chose. Okay? C'est pas fini, jamais. Mais un target, un objet, un yad, un objet, une destination. Et alors, ceci c'est une forme. Qu'est-ce qui est en jeu dans cette destinée de ce devenir? Alors c'est là que nous enrichirons cette analyse, parce qu'on a appris un peu trop rapidement, d'ailleurs, que j'avais des cours, j'avais l'après-midi. On va plus de cette Gemara qu'on a fait. Okay? Et vous avez eu le souci de la Gemara, d'arriver à établir la différence spécifique entre l'homme et l'animal. Et nous avons vu que ça s'est déployé de façon énorme. Qu'il s'agit d'autre chose. En fin de compte, on est arrivé à cette espèce de tension sur trois axes, entre la tendance au bien et la tendance au mal, le problème moral, qui est là de façon rudimentaire chez l'animal. Et encore, non, pas de façon rudimentaire, c'est pas la même chose que la pensée, que l'animal acquiert au contact de l'homme. Les animaux domestiqués sont des animaux artificiels. Faites bien attention à cela. Et on a très peu de moyens de faire l'observation de l'animal en tant qu'animal chez lui. Parce que l'animal domestiqué, c'est déjà... Oui, et je vais vous parler un peu de ça maintenant. Après, je reviens sur la démarration de la zone. Et quelle est l'origine des espèces domestiques? Mystère. On ne voit pas un loup devenir un chien. Mystère. Alors, je veux dire ce qu'on s'est vu à ce sujet, c'est que dans toute la période d'avant le déluge, l'homme avait la capacité d'humaniser l'animal. Et cette capacité s'est perdue. Et aujourd'hui, il n'y a que... C'est resté un peu de façon très rudimentaire, c'est le dressage de cirque. Le dressage de cirque. Docteur. C'est-à-dire qu'on est capable de dresser un individu animal. On n'est plus capable de faire qu'une espèce se domestique.
Quel était le but de l'homme de humaniser?
C'est plus une question, là, c'est la découverte de tout un... Peut-être qu'il s'agit effectivement de... La fonction de l'homme dans le monde, c'est d'humaniser le monde, et donc premièrement l'animal. Et peut-être que l'homme a perdu cette capacité.
Oui,
c'est un problème d'écologie.
Ça n'est pas aller contre le projet de Dieu.
Non, au contraire. Regardez bien votre verset 26 du chapitre 1. Et peut-être c'est ça la vocation de l'homme, d'humaniser le monde. Ben, vous lisez la Bible en français, alors c'est ça. Dans le besoin de verset exact. Là, ici, on est au bord d'un problème énorme. Okay? Cette capacité que peut-être on raconte, la mémoire, c'est les gens, mais c'est pas des légendes, que certains hommes, subitement, on ne sait pas comment, ont eu cette capacité de subjuguer l'animal et l'humanité. Okay? Je vais vous raconter un chapitre très important d'un livre de Victor Hugo. Vous avez lu Les Travailleurs de la mer. Vous êtes une culture encyclopédique. Vous n'avez pas fait la guerre de 14. Allez, à l'affaire, vite, ça vous manque. Lisez un jour Non, lui, j'ai pu embrasser. Ça a été traduit en hébreu. Vous avez lu Les Misérables, je suppose. Même pas. Mais qu'est-ce qui se passe en France?
Il y a des exceptions, si tu peux
tirer. Regardez. Attends, on va prendre d'abord ce verset et après. Alors, c'est ça, oui. C'est bien le verset 26 du chapitre 1. Alors, lisez bien le verset 26 du chapitre 1. Et jeudi prochain, on me posera la question, qu'est-ce qu'il y a? Je vous poserai la question, qu'est-ce qu'il y a? À ce propos, de ce problème, on ne change pas de... Et alors, il y a là un projet de l'identité humaine, d'humaniser le monde. Essayez d'arriver à cette sensibilité. Peut-être que l'homme, je pense tout ça sous forme d'hypothèse fantasmagorique, hein, mais réfléchissez. Peut-être que l'homme est un étranger sur Terre et qu'il a été envoyé pour humaniser le monde, enfin la planète. Peut-être. J'ai pas dit plus.
Humaniser,
rendre meilleur, c'est trop vague, c'est trop large. Rendre meilleur en quoi? Humanité. Faire que. Attendez, réagissez pas trop violent. Émilie. Je sais pas, je pose hypothèse, ok? Humaniser, ça veut dire que l'être de nature est du côté du ça, impersonnel, d'en faire le quelqu'un, du ma arrivé au mi. Peut-être que nous avons, nous les hommes, cette mission-là, et que non seulement on a oublié, mais on ne sait pas trop où il s'agit. Est-ce qu'on n'a jamais eu le sentiment une fois, en tant qu'homme, d'être peut-être étranger chez soi, sur Terre? Vous voyez de quoi je parle? Il y a un très beau poème de Judas Lévy qu'on chante le jour de Rosh Hashanah d'ailleurs, chez les Sfaradim. Il faudrait qu'on le communique aux Sfaradim, parce qu'il est tellement beau ce poème. Où Judas Lévy, en se basant sur un verset d'Abraham, dit Keger Toshav Ani Algar Adama. C'est-à-dire, comme un étranger séjournant, je suis sur la terre.
On apprend le Dalévi.
Tu te rappelles de celui-là? Et où l'âme qui débite na inahalati. Du Bélé, vous savez, tu l'avais vu peut-être, hein? Oui, pour l'hébraïsation de l'âme. Alors, il lance cette idée-là dans ce poème. Il dit, je me sens comme un étranger, bien que sachant que je suis chez moi. Okay?
C'est Abraham qui dit ça.
Ah, très bien. Abraham dit ça au. Voilà. Et alors, il remarquez que en paroxysme, les juifs sont comme ça partout, à la fois étrangers et chez eux, même chez eux. J'ai remarqué ça, que les juifs, c'est toujours le paroxysme de la condition humaine. Voilà un exemple. Qu'on soit étranger chez nous, chez les autres, là-bas, mais une fois on arrive ici, vous devez venir là, on nous dit, t'es chez toi, mais étranger. Je ne sais pas si vous réalisez. Comme quoi nous sommes en apprentissage de la vérité. Et alors, imaginons cela, qu'il y ait une sorte de mission de l'homme, d'humaniser le monde. Jusqu'où est arrivée la bête, la Torah? Elle s'appelle Behema. Ra-ma. En elle, il y a le ma. Okay? Il faut transformer ce ma en mi. Vous y allez? Mami. Bon. Et alors, il y avait effectivement un lien entre l'homme et l'être animal. Et puis, après le déluge, on a perdu cette capacité. Et c'est pas pour rien que je vous ai pris cette image. Le loup devient le chien. Okay? Et vous vous rappelez de ce qu'a dit le prophète Isaïe? Il arrivera un jour où le loup et l'agneau fêteront ensemble et un petit enfant sera leur berger. Mais qu'est-ce que c'est ça, un loup qui vit avec l'agneau? C'est le chien. Qui est le berger, le chien du troupeau. Vous voyez ce qu'il y a derrière cette image? Et c'est pas une image, c'est très important que les loups et les animaux vivent un jour ensemble. Il y a aussi dedans Caïn et Abel et tous ces autres problèmes. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est soit des images. D'image. Okay? Vous savez, d'ailleurs, les hommes sont très insultants pour les animaux. Quand deux hommes s'insultent, se disent chien, Vous avez eu deux chiens de dire homme. Méritez. Mais alors, pour revenir
au problème. Pour faire sortir de. Pour aider le mât face au mythe, c'est que l'homme est déjà.
Soit ami, pas ouf. C'est sûr, c'est ça le problème. C'est-à-dire tout se passe comme si cet homme qui devait être le mythe du mât, lui-même est tombé au mât. D'accord. Et c'est un peu cette catégorie qui arrive lorsqu'on parle des hommes comme s'ils étaient des animaux, êtres de nature. Ils ont consenti à devenir des êtres de nature. Effondrement, ok ? Chute. Alors il y avait une première relation, c'est la domestication. Le mystère là s'est perdu. Mais nous avons des exemples. Vous avez lu Coradis. Vous n'avez pas lu Coradis ? Coradis Dominus. Alors, on vous raconte une scène des martyrs des chrétiens. Nous, nous avons cette scène déjà, Daniel, dans la Constitution, dans la Bible. Le regard du tzaddik subjugue l'animal. Vous voyez cette scène? Top. C'est beaucoup plus haut, rien à voir avec la domestication de dressage de cirque. Alors, il ne reste plus que deux relations entre l'homme et l'animal. Je vais vous étonner. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on commence à réfléchir. La domestication a perdu. Il faut quand même sauver l'animal. Alors on n'a plus que deux relations, la nourriture et le sacrifice. Et le sacrifice, on n'a plus, il reste que la nourriture. Alors voyez en quoi les végétariens sont des missionnaires. Alors les autres sont missionnaires. Et on reprendra ce problème, c'est un problème énorme. Mais simplement, je vous l'indique en bas. Okay. Et alors, vous vivez. Compliqué ça, mais on découvre.
Est-ce que vous pouvez
simplement. Regardez, c'est un problème. Quand on parlera pour lui-même, on étudiera pour lui-même, et à théâtre, gardez votre état de choses, vos présupposés, vos convictions, vos postulats, on découvre. C'est ce que la tradition juive dit de ces problèmes-là. Ne croyez pas que c'est des choses simples. Je vous donnerai la halakha de ces choses-là en détail. Okay. Maintenant, simplement, je voudrais simplement vous citer ce passage de la pieuvre, la description de la pieuvre dans Le travailleur de la mer. Personne n'a lu ce livre-là. Toi, quand même. À travers le personnage s'appelait Gilliatt. Ça me revient de ma classe de troisième. Gilliatt, pas Goliath. Un travailleur de la mer, c'est-à-dire un marin, finalement, une opération de sauvetage d'un navire ou je ne sais pas quoi, il rencontre une pieuvre dans l'océan. Alors, Victor Hugo, avec un génie que seul lui pouvait avoir, décrit la rencontre entre l'homme et la nature, à travers une pieuvre. La rencontre entre l'homme et le monstre. C'est-à-dire l'être de nature qui est là, comme s'il y avait quelqu'un, mais il n'y a pas. Okay. Et vous voyez, cette rencontre entre l'homme et le monde animal, c'est une rencontre terrifiante. Par exemple, quand vous avez un enfant qui a peur d'une mouche, méfiez-vous. Il a raison, la mouche est terrifiante pour l'enfant. Et ne jouez pas à lui dire, t'as pas honte, vous causez des traumatismes épouvantables, parce que l'âme de l'enfant est terrifiée par la rencontre du monde animal à travers une mouche. Il faut au contraire se mettre comme allié avec lui contre la mouche, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Okay. Surtout si c'est une mouche à miel, c'est le plus dangereux. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites bien attention à cela. La rencontre de l'impersonnel qui mime la personne, qui fait semblant d'être une personne. Peut-être c'est l'inverse. C'est une personne qui fait semblant d'être impersonnel, la pieuvre. Bon, je ne vais pas vous donner de cauchemar. C'est ce que j'avais vu par des mouches. Mais, vous voyez quel est ce problème ? Nous sommes peut-être dans un monde qui nous est étranger. Peut-être, dites-vous. Et que nous avons été chargés d'humaniser. Mais le déluge a aussi sanctionné cela, qu'on a échoué là-dessus. Est-ce que c'est clair? Bon, bien, puisque c'est l'heure, là, là je suis en retard, alors...
Vous parlez du peuple juif ou vous parlez d'humanité en termes d'être
je parle,
des hommes
Je parle à partir du premier homme.